Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Par les temps qui courent, tous les soirs une conversation qui dure une heure et ce soir avec Nastassia Martin.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Nastassia Martin.
Je me dis, un ours et une femme, c'est trop gros comme événement. Trop gros pour ne pas être réassimilé illico dans un système de pensée ou un autre. Trop gros pour ne pas être instrumentalisé par un discours particulier ou en tout cas s'y intégrer. L'événement doit être transformé pour devenir acceptable. Il doit à son tour être mangé puis digéré pour faire sens. Pourquoi ? Parce que ça est trop terrible à imaginer, parce que ça sort du cadre de l'entendement, de tous les cadres, même de ceux des chasseurs évènes au fond d'une forêt au Kamtchatka. Le 25 août 2015, vous rencontrez un ours. Dans l'affrontement que l'un et l'autre ne peuvent éviter ce jour-là, il vous blesse très fortement et vous le blessez aussi. Bien plus tard, vous écrirez plusieurs textes, dont ce livre qui paraît aux éditions Verticales et dont je viens de lire un extrait. « Mille choses s'y déplient ». La force de l'acte de l'écriture, le vacillement de l'identité, la porosité au monde des non-humains, la porosité au songe, ce que c'est que d'être soigné, entendu, et ce que c'est que de ne pas l'être. Avoir confiance dans une fille, dans une mère, dans l'autre. Bref, c'est un livre dense que j'ai trouvé bouleversant. Il s'appelle « Croire aux fauves ». Bonsoir, Nastassia Martin.
Bonsoir.
Il est paru aux éditions Verticales. Et si vous voulez bien, on va commencer par la voix d'un auteur qui nous parle du Kamtchatka.
Dans les vallées du Kamtchatka, j'ai été complètement sidéré de voir des plantes géantes. Un peu comme on vous montre dans des films récents, l'homme transformé en petit et puis toutes les choses grandes devant lui. Il y a des bouleaux qui ont une taille gigantesque. Il y a des orties qui font 2 mètres, il y a... Alors, au Kamtchatka, les gens racontent que toute espèce, y compris animal, qui vient au Kamtchatka, est multipliée par 4 en, je sais plus, disons 2 ou 3 générations. J'ai eu de la chance, j'ai pas vu de gigantesques chiens comme ça, mais enfin, ils le disent. Moi, j'aime bien croire que c'est un peu chamanique aussi, tout ça. C'est un lieu où il y a beaucoup d'esprits qui ont envie de faire pousser des grands arbres. J'ai entendu au Kamtchatka des rivières parler. Et je suis catégorique et j'ai des témoins. Toute une nuit, une rivière a parlé. Non pas comme j'ai fait beaucoup de voyages dans beaucoup d'endroits du monde. Il y a des galets qui roulent au fond des rivières et qui font des bruits. Non, celle du Kamtchatka parlait. Ce sera une autre histoire.
Alors c'est la voix de Marc de Gouvenin qu'on entendait dans une archive de 1996. Nastassia Martin, votre texte, il connaît plusieurs, ou il traverse plusieurs décors, dont certains qui nous sont ici, on va dire, assez familiers. Des hôpitaux, des trains, même quand ce sont des hôpitaux étrangers, ce sont des choses qu'on peut un peu se figurer. Et puis il y a des choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus éloignées de nous et beaucoup plus... qui passent vraiment par votre sensibilité, votre description. J'aimerais bien qu'on parle du vivant, qui précède tous ces paysages. Qu'est-ce qui entoure les événements dont il sera ensuite question?
Oui, je pense que c'est très juste de dire que au Kamchatka, les rivières parlent. C'est pas seulement une formule poétique occidentale, c'est que pour les gens avec lesquels je travaille dans la forêt de la région d'Icha, les rivières parlent et répondent, et on peut s'adresser à elles, leur adresser des prières, des requêtes, pour qu'elles ne sortent pas de leur gond lorsqu'on voyage dessus, notamment avec des enfants en été. C'était le cas d'ailleurs là, j'y étais il y a 2 mois, et avec beaucoup d'enfants qui reviennent en forêt. Et voilà, Daria, la chef de clan Even, avec laquelle je travaille, adressait justement ses prières à la rivière tous les matins au moment du thé. Voilà. Le Kamchatka, c'est une région de forêt pluviale du nord. Donc c'est vrai que c'est assez, contrairement à l'Alaska où j'ai travaillé de longues années avant de traverser le détroit de Bering, c'est beaucoup plus varié comme végétation. Et c'est vrai que les arbres, les plantes, les fleurs, tout est très très haut, tout est très très grand. Faut vous imaginer des volcans enneigés toute l'année, au pied desquels des forêts qui ressemblent plutôt à des jungles. Où c'est très humide, donc il y a des forêts entrecoupées de toundra d'altitude dans lesquelles on patauge jusqu'à mi-jambe. Il y a des rivières de partout, des rivières. Et donc en été, on voyage sur ces rivières en bateau, ou alors le long de ces rivières à cheval. Et en hiver, on voyage aussi sur ces rivières en motoneige ou avec des chiens, plutôt en motoneige depuis une quarantaine d'années, sur ces rivières donc gelées. Et donc il faut aussi vous imaginer qu'il fait très très froid en hiver, il peut faire jusqu'à moins 50, et qu'en été, il fait très très chaud, d'où la jungle. Donc il peut faire jusqu'à 35, 40... avec beaucoup, beaucoup de moustiques. Donc c'est une jungle qui n'est pas hospitalière, au sens où c'est pas la petite maison dans la prairie. On ne peut pas s'asseoir dehors et déjeuner dans un cadre bucolique. Et donc on se réunit dans des yourtes, généralement, ou alors des yourtes en dur, en bois, autour d'un feu, parce que le feu aussi chasse les moustiques. Donc on est quand on est dehors, c'est on est entouré, en fait on vit entouré d'êtres et de présences, de puissances qui sont vraiment très très présentes. Et même quand on est dedans, en fait, parce que justement le propre de la yourte, c'est que il faut vous imaginer que c'est vraiment juste une fine barrière qui vous sépare du monde extérieur. Et donc même quand on dort, c'est comme si tous les oiseaux qui chantent et les insectes tout au long de la nuit, c'est comme si on est avec eux tout le temps, en fait.
Et donc, voilà. Et inversement, puisqu'il y a à un moment donné du livre quelque chose de très important qui est dit à mon avis, c'est tout est enregistré. Et donc il n'y a pas que les humains qui entendent les oiseaux et le reste à travers la toile de la yourte, mais aussi les humains, leurs paroles et leurs gestes qui sont entendus et enregistrés par le vivant dont ils sont un tout petit peu séparés. Nastassia Martin, c'est un livre qui part de l'anthropologie.
Absolument.
Pour y retourner.
Absolument.
Par un détour que vous prenez soin de dédramatiser, par un détour profond qui est une révolution intérieure qui a à voir avec la rencontre avec l'ours, mais pas uniquement. Peut-être dire donc l'endroit depuis lequel vous parlez et l'anthropologie quand même.
Mmh.
Et oui. La raison de votre présence là-bas.
Oui, je dirais l'anthropologie surtout.
Ouais.
Pas quand même. Oui, donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'animisme. D'abord en Alaska. Donc l'animisme, c'est cette idée qui est partagée par nombre de collectifs indigènes dans le Grand Nord et ailleurs en Amazonie aussi, qui est que nous partageons avec les autres membres du vivant, les autres êtres, quelque chose qu'on pourrait appeler un fond commun animé. Alors Philippe Descola, qui est à l'origine de la remise en action de ce mot, dirait intériorité. Bon, on peut aussi dire âme. Voilà, qu'on partage donc une âme en commun avec tous les êtres qui nous entourent, et que ce qui nous différencie, en fait, c'est l'enveloppe, c'est les habits qu'on porte, c'est-à-dire nos corps. Et alors, à quoi ça sert, en fait, de penser le monde comme ça? C'est que du coup, on est en mesure d'enclencher un dialogue avec les êtres qui nous entourent, ce qui est absolument indispensable lorsque vous vivez dans un contexte de chasse et de pêche, où en fait pour survivre, il faut pouvoir poursuivre, traquer, pister des animaux, puis potentiellement les tuer. Et surtout, une fois que vous les avez tués, il faut qu'ils puissent revenir. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en capacité de dire à leur âme que demain, elle pourra revenir sous une autre forme, sous une autre incarnation. Parce que sans ce cycle-là, si ce cycle-là se brise, évidemment, de manière concrète et pratique, il devient impossible de survivre en forêt. Donc ce qui est très important, en fait, pour ces gens-là, et c'est le cas en Alaska, là où j'ai travaillé auprès des Gwich'in, c'est le cas auprès des Even avec lesquels je travaille au Kamchatka, c'est de se donner les moyens de maintenir le dialogue avec les êtres non humains qui nous entourent. Et comme vous imaginez, ce maintien du dialogue est rendu assez périlleux en ce moment, ce dernier siècle, avec l'arrivée de la modernité dans ces lieux-là, la question de la colonisation, et maintenant depuis 10 ans de manière très très forte la question des métamorphoses environnementales, et donc de tout un monde qui est véritablement chahuté, bouleversé. Et donc ces êtres qui nous entourent, ces animaux qui commencent à faire des choix qu'on ne comprend plus, en fait. Donc j'ai souvent entendu cette phrase en Alaska, comme au Kamchatka d'ailleurs, peut-être en moindre mesure, mais je pourrais y revenir. Le sens commun ne fait plus sens. C'est comme si, en fait, les animaux migrateurs partaient sur des trajectoires sur lesquelles, finalement, les savoirs traditionnels, même des chasseurs-cueilleurs, ne nous avaient pas préparés à aller.
Donc ça veut dire que c'est même plus opérant? Même ce savoir-là n'est plus opérant?
Eh ben alors justement, c'est là, donc c'est vraiment le cœur de mon travail et de ce que j'ai essayé d'expliquer dans Les âmes sauvages, c'est que
le titre d'un précédent livre qui était votre thèse avec Philippe Descola.
Absolument. Évidemment le premier ressenti, en fait, quand on arrive sur ces terrains, c'est que tout est en train de s'effondrer et que il y a plus de sens et que rien ne va plus et que le monde, le nôtre et le leur, court véritablement à sa perte. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en restant de longues années là-bas, parce que ça m'est pas apparu en un mois, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est vraiment pour moi, enfin voilà, l'enquête ethnographique a vraiment besoin de durer pour dire quelque chose d'autre qu'une actualité pressante et évidente. Et donc ce qui m'est apparu, c'est que déjà, en fait, il y avait toujours des chasseurs qui continuaient d'aller en forêt, d'y passer beaucoup de temps sur les camps de chasse et de pêche. Et qui continuait d'avoir des dialogues en rêve avec ces animaux qui pourtant avaient des trajectoires perturbées et qu'il était de plus en plus difficile de suivre, tant dans la pratique de la chasse, parce qu'ils s'éloignaient en fait des humains, et tant dans la pratique du rêve, parce que, comme le disait Clarence, un de mes interlocuteurs, Guichin, en Alaska, les canaux du rêve étaient comme brouillés, en fait, comme si il y avait des grésillements tout le temps avec tout la modernité qui est quand même assez présente dans ces villages, qui faisait que on n'arrivait plus à rêver et à se communiquer avec ces gens-là, et donc avec, enfin, vous voyez, je dis moi-même ces gens-là, donc je parle des êtres non humains, parce que eux-mêmes disent ces gens-là. Et que donc, la seule solution, c'était de prendre sa tente sur ses épaules et d'aller rêver plus loin.
Oui, mais j'allais y venir. En fait, ce qui est intéressant, c'est même que ce plus loin-là finisse par être petit à petit menacé. C'est-à-dire, où iront les gens qui veulent ou qui voudraient pouvoir rêver plus loin, dans la mesure où même cet éloignement-là, à un moment donné, va se réduire. Je suis optimiste en disant qu'il ne va pas disparaître, mais cet écart-là dont parle tout votre livre... La nécessité de cet écart, qu'il soit à l'intérieur de nous ou géographiquement, il est de plus en plus difficile à atteindre.
Absolument.
C'est une question.
C'est une très bonne question et en réalité, je n'ai pas la réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, finalement, en posant ces actes-là, justement, comme d'aller rêver plus loin, là, dans le cas de l'Alaska, on produit une forme de réponse aux métamorphoses environnementales et à ce qui est en train de se passer, qui vient puiser au sein de la cosmologie même, c'est-à-dire là, en l'occurrence, de l'animisme, qui se voit comme, en fait, restaurée, dans l'altération même qu'elle est en train de subir, en fait. Parce que, vous voyez, l'idée que donc les êtres qui nous entourent sont des gens et qui donc sont dotés d'intériorité, ça veut dire qu'ils sont capables d'attention, d'intention et de faire des choix, en fait, individués en ce qui concerne leurs existences. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, avec le changement climatique? On pourrait dire que d'un côté, ça c'est la première, disons la première lecture, celle qui est évidente, le sens commun ne fait plus sens. Mais ce que vous disent les gens qui justement continuent d'aller chasser, d'aller rêver plus loin, etc., c'est que finalement, les animaux, en montrant qu'ils deviennent encore plus inaccessibles, quelque part, ils font des choix auxquels on ne s'attend pas, deviennent encore plus eux-mêmes. Ce qui justifie complètement, en fait, cette idée de ce sont des gens, ils font parfois des choix inattendus, incompréhensibles, ils débordent nos attentes. C'est parce qu'ils débordent nos attentes
qu'ils sont des individualités.
Et qu'il faut les suivre parce qu'ils ont peut-être des réponses que nous on ignore. D'où aller rêver plus loin. Et je pense que ce que font finalement les Guichin ou les Even lorsqu'ils repartent sur les traces de ces animaux-là en forêt qui font des choix inattendus face à la situation actuelle, c'est un peu ce que moi je fais en mettant mes pas dans leurs traces à eux, aux indigènes, qui justement eux aussi font des choix sur les traces des animaux qu'ils poursuivent. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est un texte qui parle vraiment de cela, aller vers ce que l'on ignore, aller vers l'incertitude comme étant un endroit vivifiant, un endroit de vitalité. C'est aussi un texte, à mon sens, qui parle beaucoup de ce que c'est que d'écrire et de qu'est-ce qu'on inscrit, qu'est-ce qui se passe dans cette force-là. Donc on va écouter Lévi-Strauss sur ce point.
Notre grand problème, et je dirais un malaise de notre civilisation, c'est que l'ordre du rationnel et l'ordre du poétique sont devenus des ordres complètement séparés. Tandis que dans toutes les civilisations dites primitives qu'étudient les ethnologues, ce sont des ordres étroitement unis. Et le rationnel s'exprime sous forme poétique, et dans le poétique, on trouve du rationnel à l'état latent. Et tout mon effort, je dirais, si je devais le caractériser en un mot, celui de toute ma vie, celui de tous mes livres, ça a été précisément d'essayer de retrouver à travers l'étude de ces sociétés cette alliance primitive entre le poétique et le rationnel. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer dans les titres de mes livres. Quand je suis rentré du Brésil, j'ai commencé à l'écrire dans les quelques semaines qui se sont écoulées entre la date de mon retour et ma mobilisation pour la guerre. Mais j'ai très vite renoncé parce que je me suis aperçu au bout de 50 pages que je faisais du très mauvais Conrad et que, bon, j'étais pas fait pour ça.
Je dois dire que j'ai deux carnets de terrain. L'un est diurne. Il est empli de notes éparses, de descriptions minutieuses, de retranscriptions de dialogues ou de discours, opaques le plus souvent, jusqu'à ce que je rentre chez moi et que j'y mette de l'ordre. Jusqu'à ce que j'ordonne cet amas de données détaillées pour en faire quelque chose de stable, d'intelligible, de partageable. L'autre est nocturne. Son contenu est partiel, fragmentaire, instable. Je l'appelle le cahier noir, parce que je ne sais pas bien définir ce qu'il y a dedans. Le carnet diurne et le cahier nocturne sont l'expression de la dualité qui me ronge, d'une idée de l'objectif et du subjectif que je sauve malgré moi. Ils sont respectivement l'intime et le dehors. L'écriture automatique, immédiate, pulsionnelle, sauvage, qui n'a vocation à rien d'autre que de révéler ce qui me traverse, un état de corps et d'esprit à un moment donné, et celle, paradoxalement moins léchée mais plus contrôlée, qui sera par la suite travaillée pour devenir réflexive et qui finira dans les pages d'un livre. Évidemment, après l'ours, cette nuit-là, c'est du cahier noir que je me suis saisi.
Nastassia Martin, c'est un extrait de votre texte « Croire ou fauve » que lit à l'instant Romain de Becdelièvre et juste avant la voix de Claude Lévi-Strauss en 1986 qui parlait de l'écriture assez précisément, de la manière dont il se bataille entre ordre rationnel, ordre poétique, comment il faut chercher la conjugaison des deux. Dans l'archive un peu plus loin, il parle de son admiration pour Conrad. Je disais que pour moi, c'est un texte, Croire aux fauves, qui parle beaucoup de ce que c'est qu'écrire et de la place que vous lui donnez à la fois dans votre pratique scientifique de l'anthropologie et de l'entreprise totalement intime et politique, mais de la métamorphose que vous décrivez dans ce texte-là. Alors, vous en diriez quoi? Puisque c'est un texte qui se finit comme ça, qui dit « je vais écrire ».
Pas parce que c'est la réalité. Je suis en train d'écrire mon troisième livre. Non, c'est vraiment question qui est au centre du geste que j'ai voulu faire avec ce livre. D'abord, juste dire qu'il est vraiment adossé à une tradition en anthropologie qui est assez ancienne, qui est la tradition du deuxième livre. Et donc, Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, Philippe Descola, Les Lances du Crépuscule et plein d'autres auteurs de chez Terre Humaine, Plomb.
C'est quoi? C'est le récit à côté de l'entreprise plus scientifique, clairement scientifique?
Oui, que je tords un petit peu là. Mais je pense que... La différence entre ce que ces auteurs ont pu faire, là spécifiquement Claude Lévi-Strauss et Philippe Descola dans leur deuxième livre et ce livre-là, c'est que c'est que c'est une écriture qui est beaucoup plus ciselée et presque chirurgicale, en fait, parce qu'elle traduit aussi une urgence. Et pas seulement, je pense, une urgence à détacher une histoire particulière d'un corps. C'est d'ailleurs quelque chose, enfin, qui... C'est le mouvement qu'il faut faire quand on revient du terrain et qu'on se met à écrire. Enfin, ça, c'était le même avec les âmes sauvages. Là, il s'est rajouté cette histoire avec l'ours. Mais c'est aussi que je pense qu'on est en train de faire face à une urgence d'effondrement écosystémique global partout sur la Terre. Et en fait, ce texte, pour moi, c'est aussi une manière de se servir, en fait, d'un événement qui m'est arrivé et qui est un événement assez a priori catastrophique, pour le dérouler, en fait, le déployer et montrer, faire ressentir par résonance qu'est-ce que ça peut être qu'une position de chercheur en anthropologie face à ça, en fait, face à des mondes qui implosent. Parce que ce qui m'arrive à moi, c'est que j'étudie l'animisme depuis 15 ans maintenant, de part et d'autre du détroit de Bering, en tant qu'anthropologue, et d'un seul coup, je suis débordée par la cosmologie que je suis censée étudier de manière extérieure et objective. Et je suis non seulement débordée par des rêves, ça c'était déjà un petit peu le cas en Alaska, mais en plus, il se passe que tout ce sur quoi j'ai écrit dans mon premier livre m'arrive en fait concrètement au Kamchatka. Et donc une relation... assez violente, voilà, une rencontre violente avec un ours mais surtout le fait d'être restée vivante, en fait, et d'avoir la capacité de rentrer pour en dire quelque chose.
Intuition que vous écrivez déjà dans un article de 2016 dans la revue Terrain, où vous dites, bon, à partir du moment où j'ai compris que je restais vivante, j'ai aussi compris, alors je sais pas si c'est un effet d'écriture et de la manière de le raconter après coup, mais j'ai compris que j'aurais quelque chose à dire, que j'aurais quelque chose à écrire de ça.
Oui, absolument. Après, j'étais pas du tout sûre sur le moment de réussir à retranscrire les choses de manière satisfaisante. Mais ce qui s'est passé, en fait, ça a été un petit peu la force des choses. C'est que j'ai écrit cet article pour Terrain en pensant que ça me débarrasserait de cette histoire. Et je voulais commencer à écrire tout de suite la suite des âmes sauvages, le travail que je prépare actuellement sur le Kamchatka. Donc, qui porte vraiment sur le choix de ce clan familial Even de repartir en forêt à la chute de l'Union soviétique. Et donc de redevenir chasseur-cueilleur en abandonnant complètement l'élevage de rennes. Et de retrouver un mode de vie profondément animiste. Et en fait, j'étais incapable d'écrire. J'étais absolument incapable d'écrire. Et j'ai eu la chance, il y a un an et demi, de pouvoir discuter de ça. Enfin, c'était une contingence totale. On s'est rencontrés par hasard avec Maïlys de Kerangal. Qui
est autrice et qui publie chez Vertical.
Voilà. Et je lui disais, j'arrive pas à écrire, en fait, je suis complètement bloquée, et qui m'a dit, mais là, tu ne peux pas ne pas passer par ce livre avant d'écrire ce que tu as à écrire, et peut-être aussi que ça va débloquer quelque chose. Écrire de manière finalement beaucoup plus libérée. Enfin, en anthropologie, on a un mode d'écriture qui est quand même assez exigeant. Avec des références, des notes en bas de page, beaucoup de documentation, etc. Et là, il s'agissait juste d'écrire, en fait, assez librement ce qui m'est arrivé. Et c'était assez libérateur, en fait, de faire ça. Et puis après, l'autre question vraiment importante dans cette idée de réaffirmer, en fait, réaffirmer vraiment les liens entre anthropologie et littérature. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu envie de publier chez Plon et que j'ai publié chez Vertical. C'était réfléchi. C'est que j'avais envie de pouvoir partager, en fait, à la fois cette expérience, ce qu'on peut en dire, et cette posture de chercheur en anthropologie, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, avec plus de monde, en fait, et par résonance.
D'autant, si je peux me permettre, Nastassia Martin, que votre texte l'excède à la fin. Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire que peut-être que c'était là au départ, mais pour moi, c'est un texte qui va au-delà que de simplement dire ce que c'est qu'être un chercheur en anthropologie. C'est un texte qui parle de l'hôpital, qui parle de mains, de femmes qui soignent un autre corps, qui parle de ce que c'est que d'avoir une mère, qui parle de la peur, qui parle de la perte totale de repères quand on se rend compte que le langage a des limites et qu'il ne suffira pas à dire le réel qu'on a traversé. Enfin,
absolument.
Du coup, on va au-delà de juste, je vais raconter ce que c'est qu'être anthropologue au Kachemka.
Oui, absolument. Ce que je voulais dire par là, au-delà de ça, c'est aussi disons que c'est pas tellement, c'est même plus, je dirais, c'est plus une posture de chercheur, en fait, parce que c'est ça qui reste à la fin, en fait. C'est finalement l'expérience que je fais, c'est que chaque collectif par lequel je transite après cette rencontre avec l'ours veut d'emblée me réassimiler en fait dans un mode de pensée, dans un rapport au monde, dans une symbolique. Donc voilà, quand je suis dans les hôpitaux, les médecins me disent ce qui est en train de m'arriver et ce que je suis. Quand je parle à ma thérapeute, on essaie de resymboliser pour mettre du sens. Et quand je suis au Kamchatka et je pense qu'ils vont me sauver parce que, enfin, eux, ils comprennent, parce qu'ils sont animistes, ils comprennent ce qui m'est arrivé. Donc moi, quand je suis à l'hôpital, je ne pense qu'à une chose.
Retourner là-bas
aux grandes dames de tout le monde, ma famille, enfin mes proches y compris, qui vraiment ne comprennent pas ce qui se passe dans ma tête. Et quand je retourne là-bas, je me rends compte que finalement le processus en fait c'est-à-dire d'essayer de mettre du sens sur un événement qui déborde et qui du coup est trop gros depuis l'endroit où on est exactement le même.
Pour traduire, ils vont, pour donner du sens, aussi intégrer cette rencontre, cet événement, votre nouvel état, votre entrée dans un nouvel état, à leur propre chaîne de sens et de signification.
Exactement. Et l'instrumentaliser aussi. Parce que du coup, après, évidemment, il ne faut pas partir, il faut que ça soit toi qui... C'est toi qui rêves.
C'est toi qui restes, et quoi. C'est toi qui rêves.
Exactement. Donc tu restes. je me trouve perpétuellement dans une zone liminaire, en fait. Vraiment, tout le temps un peu entre
allez-y.
Entre deux chaises. entre les mondes. Et c'est très inconfortable. C'est très inconfortable parce que en fait en tout cas moi j'ai eu le sentiment pendant longtemps de ne pas avoir de place en fait. Quelle est ma place? Quelle est ma place et comment dans quel monde je vais pouvoir survivre? Et c'est qu'en fait à la fin, et moi je retraduis ça comme la posture du chercheur au sens où je pense que ce qui sauve, en tout cas moi ce qui me sauve, c'est de me dire je vais habiter cette zone liminaire. C'est là que je vais vivre, en fait. Et c'est pas grave. C'est juste qu'il faut l'accepter.
Il est évident qu'on ne parlera pas avec le loup, et il est évident qu'on ne passera pas des pactes au sens où on signe des contrats. Par contre, ce que montre la biosémiotique, c'est qu'il existe constamment des formes de communication que l'éthologie a bien documentées, et que cette communication, si jamais on s'insère finement dans l'éthogramme de l'animal, c'est-à-dire dans sa trame comportementale propre, dans sa manière de recevoir et d'échanger des informations, on est susceptible d'échanger avec lui des informations, de signifier des limites qui font sens à l'intérieur de son propre monde, beaucoup plus que la clôture, la frontière administrative ou le coup de fusil, qui sont des types de transferts d'informations assez rudimentaires.
Les ours sont les plus intelligents de tous les animaux. Il me dit, ils sont comme les humains, aussi puissants. Tu savais? Je savais. Et est-ce que tu sais pourquoi il t'a mordu au visage? Il demande. Non, je ne sais pas. Il pointe du doigt mes yeux. À cause d'eux, il me dit. Il rit. Vassia rit tout le temps, du haut de ses 70 ans, même quand il est très sérieux. Il reprend en fronçant les sourcils. Les ours ne supportent pas de regarder dans les yeux des humains, parce qu'ils y voient le reflet de leur propre âme. Tu comprends ? Pas trop, non, je réponds. C'est simple pourtant, Nastia. Un ours qui croise le regard d'un homme cherchera toujours à effacer ce qu'il y voit. C'est pour ça qu'il attaque inévitablement s'il voit tes yeux. Tu l'as regardé dans les yeux, n'est-ce pas ? Oui. Ah ! S'exclame-t-il, je le savais. Je leur ai dit aux autres, mais Daria me fait tout le temps taire. Elle ne veut pas qu'on parle de ce qui s'est passé. Je lui souris. C'est parce que Daria est une maman. Et les mamans n'aiment pas voir souffrir ce qu'elle aime. Marmonne-t-il. Nous buvons une gorgée de thé en silence. Les ours, ce qui les différencie de nous, c'est qu'ils ne peuvent pas se regarder en face. Tu comprends maintenant ? Oui, je comprends. Heureusement qu'ils n'ont pas de miroir, eux. Sinon, ils deviendraient tous fous. Vasya éclate d'un rire cristallin, et moi avec lui.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Nastassia Martin.
Never Going Home, c'est le titre de ce morceau de Xéla sur lequel Romain de Becdelièvre a lisé un extrait de votre texte, Nastassia Martin. Juste avant, on entendait la voix de Baptiste Morisot, qui était venu nous parler en 2016 aux Nouvelles Vagues de son livre Les Diplomates, qu'il avait écrit sur de possibles négociations ou réorganisations de nos négociations avec les loups, entre autres. Et dans ce dialogue que vous rapportez dans votre texte, d'une part, on y rit beaucoup. Et d'autre part, il est question du regard, de l'idée selon laquelle ce serait ce que l'ours n'a pas supporté dans votre rencontre. Et donc ça laisse entendre ce mot que nous disons sans le commenter depuis le début de cet entretien, à savoir une rencontre. Ce que laisse aussi entendre Baptiste Morisot dans ses écrits et dans ses prises de parole. Est-ce que vous pouvez concevoir, Nastassia Martin, que pour plein de personnes qui nous écoutent, ce soit pas possible à concevoir ? Que l'idée de la rencontre, ce soit une aberration à penser.
Oui, pour l'avoir vécu pendant 4 ans, je peux tout à fait concevoir que ce soit une aberration à penser. C'est justement pour ça que c'est important de la penser. Parce que c'est quelque chose qui sort du cadre. Et je pense qu'on est dans un moment assez crucial dans le monde dans lequel on vit ici aujourd'hui, où il faut se donner les capacités de justement penser le hors-cadre, en fait. Penser ce qui déborde, penser ce que nos concepts n'arrivent plus, en fait, à saisir. Parce que c'est ça qui va nous arriver de plus en plus. Et donc, il faut reformuler nos concepts descriptifs et analytiques. Et c'est exactement, d'ailleurs, je suis très contente d'entendre la voix de Baptiste Morisot, qui est un collègue et un ami, et qui fait depuis le naturalisme ce que moi j'essaie de faire En partant de l'animisme. Depuis la philosophie, depuis l'anthropologie de son côté, depuis la philosophie de son côté, depuis l'anthropologie du mien. Mais voilà, avec ce, finalement, c'est tous les deux saisis, ressaisis des catégories ontologiques qu'avait décrites Philippe Descola, deux de ces catégories, naturalisme et animisme. Et en fait, on trouve les moyens de les faire dire autre chose que ce qu'elles sont censées dire.
Forte de tout ça, je dis forte parce que je pense que c'est quand même un savoir qui solidifie, enfin qui donne de la puissance. Vous n'avez jamais pensé ce moment avec l'ours autrement que comme une rencontre. Vous ne l'avez jamais pensé comme une pure agression. Vous avez toujours été en mesure d'écrire, de penser ce moment, de le ressentir comme une rencontre.
C'est une bonne question. En réalité, dans l'heure qui a suivi cette rencontre, je la pensais pas comme une rencontre puisque je pensais que j'allais mourir. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'ai vraiment des choses les plus marquantes dont je me souviens, c'est d'avoir la tête dans la gueule de l'ours.
Vous parlez de son haleine, qui est l'une des descriptions les plus puissantes pour nous, en tout cas, en tant que lectrices et lecteurs.
Ça sent très mauvais, mais c'est surtout qu'il est fait très très noir et de m'être dit à ce moment-là, je vais mourir comme ça, en fait, là, dans la gueule d'un ours. Pourquoi ça s'est tout de suite assez vite, en fait, dès que j'ai su que j'allais vivre, en fait, dans, on va dire, les 24 heures qui ont suivi. Pourquoi ça s'est tout de suite transformé en une rencontre? Parce que c'était vraiment jalonné, préparé depuis très longtemps. C'est-à-dire que, évidemment, ça peut paraître complètement traumatisant d'avoir la tête dans la gueule d'un ours, ça l'est. Mais j'ai écrit une thèse sur, ces questions métamorphiques propres à l'animisme. Et peut-être pour faire comprendre un petit peu l'idée aussi, sur j'ai beaucoup travaillé sur la question des masques animistes, qui sont des masques rituels, qui sont des masques à double entrée. Avec en fait, quand vous le regardez sous sa première forme, ça va représenter la face d'une bête. Donc ça peut être un ours, un loup, un phoque, un poisson, etc. Et quand vous actionnez le petit mécanisme, le petit loquet qui vous permet de l'ouvrir, à l'intérieur, sous ce visage bestial entre guillemets, se trouve un visage humain. Et alors ça a été c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé par beaucoup d'anthropologues. Moi, ma manière d'en parler, c'est de dire que en fait ces masques révèlent en fait une espèce de dualité permanente chez les êtres humains et non humains, qui sont à la fois animaux et bêtes les deux ensemble, et rappellent l'instabilité des êtres du milieu, leur potentielle réversibilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut à chaque instant basculer dans le point de vue de l'autre. Et pourquoi, en fait, on met un visage humain sous le visage de la bête? Parce que quoi de plus pratique pour exprimer, en fait, qu'est-ce que ça peut être qu'une âme partagée que de figurer un visage humain là où passent en permanence nos émotions, nos sentiments, etc. D'ailleurs, on dit bien en français, il y a cette expression qui dit les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et ça, c'est quelque chose, je pense, en tout cas, qu'on partage avec les populations animistes. C'est ce que Vassia me dit. Il t'a saisi au visage parce qu'il a vu dans tes yeux ce qu'il ne devait pas voir. Un peu plus loin, je parle de Vernon et de la Méduse. C'est vraiment la même idée. C'est l'idée qu'en confrontant l'image de la puissance, il y a une pétrification possible et aussi une mort. Mais toute la question, et c'est là où ça vient déborder les cadres, c'est que normalement, on ne peut pas contempler la puissance.
En fait, normalement, surtout, il ne recrache pas votre visage. Il ne vous laisse pas vivante. Oui. Normalement, si on est dans le normalement.
C'est ça. Normalement.
Il veut complètement détruire la puissance qu'il a vue voilà. en reflet dans vos yeux.
Normalement, on doit mourir. C'est-à-dire. Et c'est et d'ailleurs j'ai consacré tout un chapitre des âmes sauvages sur cette question. C'est ça qui est assez drôle. J'avais dit que finalement pour arrêter ce cycle de métamorphose qui est absolument invivable en fait, hors du moment de la chasse et du rituel, mais quand l'un peut devenir l'autre et l'autre peut devenir l'un, etc. En fait, on est tout le temps. Enfin, on est dans une zone liminaire où au bout d'un moment on peut être anéanti, soit dans la folie, soit dans la mort. Et donc, une manière de restabiliser les identités, c'est-à-dire, ok, toi tu es l'ours, moi je suis la femme, c'est tout simplement qu'il y en a une des deux parties qui meurt. C'est d'ailleurs pour ça qu'une chasse réussie se termine par la mise à mort d'un animal. Ou qu'à la fin d'un rituel, est vraiment tout le temps, on clôt les choses, c'est-à-dire on les ferme. Chacun revient à soi, il faut revenir à soi. Et là, en fait, la vraie question, et je pense que c'est pour ça que c'est très difficile à penser, et pour Daria et sa famille, bon, évidemment, pour les collectifs en France et même pour moi, c'est que personne ne meurt. Donc, ça veut dire faut faire avec cette zone métamorphique que on va porter en fait. Mais je pense que moi, ça m'arrive à moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est d'actualité en fait, parce qu'on va être de plus en plus confronté à des zones métamorphiques. Alors, ça peut paraître extrême Oui, ça s'actualise, un ours, une femme, c'est presque comme une rencontre archaïque qui devrait avoir eu lieu il y a 10 000 ans.
Oui, vous dites que ça réactualise le mythe, qu'en gros, on est dans un terrain qui est le terrain du jadis, le terrain de l'archaïsme, quoi.
Oui, mais pourquoi je dis que ça réactualise le mythe? D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on a écrit ensemble avec Baptiste Morisot. C'est parce qu'en fait, la spécificité de la situation de changement climatique aigu dans laquelle on est fait que les êtres sont concrètement et physiquement en train de s'hybrider. Et c'est quoi le temps du mythe chez ces populations de chasseurs-cueilleurs animistes du Grand Nord? C'est un temps où la spéciation n'est pas encore achevée, où les êtres peuvent encore communiquer les uns avec les autres, et où on est en train de se décider sur les attributs et les dispositions qu'on va avoir collectif par collectif. Descola dirait tribu espèce par tribu espèce. Et donc on est avant la spéciation, et en fait tout le processus mythique, c'est justement d'enclencher ce processus de spéciation. Sauf que ce qui se passe, c'est que donc là on a une stabilisation au moment de la spéciation. Sauf que ce qui se passe avec les métamorphoses environnementales, et c'est pour ça que je dis l'animisme a vraiment en fait des puissances pour répondre à cette question de manière pertinente et efficace, c'est que ce qui se passe là, c'est qu'on revient en fait à ce temps du mythe où l'hybridation est la réalité concrète, c'est-à-dire que les coyotes se mettent à mate avec des loups, c'est-à-dire que les grizzlies s'accouplent avec les ours blancs, et les biologistes n'envisageaient pas que c'était possible, alors qu'en fait ils sont véritablement en train de créer des nouvelles espèces, et au niveau de la microfaune c'est encore plus visible.
Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le milieu bouge tellement, non, ou parce que c'est un choix qui leur est donné pour survivre et qu'ils prennent la décision, entre guillemets, de faire ce choix-là.
Oui, alors bon, moi je n'ai pas envie de l'interpréter en termes fonctionnalistes. Justement, moi ce qui m'intéresse, c'est cette idée que, alors que c'est quelque chose qui est très très difficile à penser depuis le naturalisme, c'est quelque chose que les mythes animistes pensent, c'est-à-dire c'est exactement ce que ça raconte. C'est comme si en fait on était en train de vivre le moment de genèse, donc revenir à une espèce de genèse où tout se remélange, où les cartes sont un petit peu redistribuées, et il faut se retrouver les attributs qui vont faire qu'on peut de nouveau s'individuer et exister en fait. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut pas voir la crise climatique comme une, comment dire, évidemment que c'est horrible, mais en même temps on est vraiment à un moment crucial de l'histoire où on peut vraiment repenser nos manières de nous relier au vivant, et repenser même le vivant aussi, puisque le vivant est lui-même en train de se repenser de toute façon.
De grosses larmes roulent sur les joues de ma mère. Je suis revenu de Paris hier. Nous sommes à table. Il est midi. Je ne sais pas comment lui annoncer autrement que d'une façon brutale. La délicatesse n'a pas toujours été mon fort. Je vais repartir là-bas. Quand ? Dans 2 semaines. Je suis hors infection. Les radiographies sont bonnes et ne prêtent pas à confusion. Je peux partir. Je continue en lui disant que vivre chez moi m'est pour l'instant insupportable, que le regard de mes amis sur mon visage est insoutenable, et que la pitié que je décèle dans leurs yeux ne m'aide pas à voir plus loin que l'immédiatement donné à voir. Je dois m'écarter pour guérir. Être à l'abri des gens. Des médecins. Des prescriptions et des diagnostics. Loin des antibiotiques. Encore plus loin de la lumière électrique. Je veux du sombre. Une grotte, un refuge. Je veux des bougies. La nuit, des lumières douces et tamisées. Du froid dehors, du chaud dedans, et des peaux d'animaux pour calfeutrer les murs. Maman, je dois redevenir Matoucha, qui descend dans sa tanière pour passer l'hiver et reprendre ses forces vitales. Et puis, il y a des mystères que je n'ai pas fini de comprendre. J'ai besoin de retourner auprès de ceux qui connaissent les problèmes d'ours, qui leur parlent encore dans leurs rêves, qui savent que rien n'arrive par hasard et que les trajectoires de vie se croisent toujours pour les raisons bien précises. Ma mère pleure, mais sait au fond que c'est ma seule issue. Plus tard, la plupart de ses amis feront vaciller sa foi en lui resservant cette histoire de limite. J'ai rencontré l'ours parce que je n'ai pas su mettre de limite entre moi et l'extérieur. Je n'ai pas su mettre de limite parce que ma mère n'a jamais été capable de m'en mettre. Tu aurais dû être autoritaire pour une fois et dire non à ta fille. Tu devrais la cadrer, la raisonner, l'arrêter, la borner. Pauvre maman, pauvres amis. En vrai, je n'ai jamais aimé les normes ni le concordat, et encore moins la bienséance. Mais petite mère, cette fois, je pars pour que tu comprennes qu'entre moi et l'ours, il y a autre chose qu'une histoire de frontières mal placées et de violences projetées. Ma mère tient bon, elle ne flanche pas. Ma mère réalise que sa fille est liée à une forêt et qu'elle va devoir y replonger pour finir de se guérir à l'intérieur.
C'est le dernier extrait qu'on entendra ce soir de Croire aux fauves, Nastassia Martin, lu par Romain de Bec-de-Lièvre. Bon, il y a plein de choses, hein. J'ai commencé par dire que c'était un texte dense. Ça me semblait compliqué de pas du tout évoquer ce qui se passe entre la mère et la fille dans ce texte-là, puisque si on dit que c'est un texte qui va de l'anthropologie à l'anthropologie, c'est aussi un texte qui va de « j'accepte que tu partes » à « j'accepte que tu repartes ». Et que c'est l'une des choses qui est dépliée pendant tout ce texte-là, qui est comment on négocie avec cet amour, que ce soit ici, dans les trains qui mènent de la Salpêtrière à Grenoble, ou très très loin, avec des gens qui vous disent « reste, rêve, on te fait confiance, on vient te voir à l'hôpital russe ». Enfin, je trouve que c'est aussi un texte là-dessus. C'est beaucoup un texte sur la solitude et c'est beaucoup un texte sur l'amour.
Oui, absolument. Je pense que c'est aussi un texte qui parle de la relation entre une mère et sa fille. Et désolée, je suis un petit peu émue.
Comment ne pas l'être ?
Mais voilà, c'est sûr que bon, ma mère est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai beaucoup de chance. Et je pense que ça a été en fait. Au début du livre, au moment où je suis à Petropavlovsk dans la salle de réanimation de l'hôpital, Je crois que j'ai écrit que, en fait, je j'arrive pas à imaginer. En fait, si je me mets à sa place de mère, c'est insupportable. C'est insurmontable.
D'ailleurs, c'est presque le seul endroit où vous n'allez pas dans votre thèse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous pouvez aller à tous les endroits possibles, de la bête, de la neige, de la montagne, etc., mais pas dans le cœur de la mer, quoi.
Oui, et c'est toujours le cas, puisque vous voyez que je suis émue et que c'est difficile pour moi d'en parler. Mais surtout que je suis maman depuis 2 ans et demi et que je comprends encore plus ce qu'elle a pu vivre. Mais je pense que la plus grande preuve d'amour qu'elle m'a donnée, c'est justement de faire silence un peu en elle quand le monde entier est en train de lui dire que sa fille se perd sur les chemins d'autres qu'elle-même, parce que c'est le cas aussi quelque part, c'est de faire silence et de faire confiance, en fait, juste de faire confiance à ce qu'il y a du sens, en fait.
Ou à ce qui déborde le sens, puisque c'est aussi un texte qui dit ça, qui dit comment on peut accueillir ce qui déborde le sens. Comment je peux accueillir ma fille qui repart,
oui,
sur la terre de l'ours.
Exactement. Et pour faire ça, je pense qu'il faut vraiment une très très grande ouverture de cœur. Donc évidemment que c'est un texte sur l'amour, donc avec ma mère, avec Daria. Voilà, c'est sur finalement ceux qui acceptent sont ceux qui à un moment décident de faire taire finalement ce qui tourne dans nos têtes en permanence et qui nous dit que ça n'a pas de sens et que ça va à sa perte, mais qui se mettent plutôt à écouter quelque chose de plus intérieur. Alors on peut dire le cœur ou le ventre, j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient, en fait.
Mais en tout cas d'ouvert.
Mais d'ouvert, oui.
Merci beaucoup. On n'aura même pas à commenter ce titre, Croire aux fauves, mais d'une certaine manière, ça peut être un commentaire possible. Merci beaucoup, Nastassia Martin. C'est publié aux éditions Verticales. La prise de son ce soir, c'était Fabien Capel et Les Rivières Parlent, y compris dans ce studio. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un petit merci spécial, grand merci spécial à Antoine Vios de la discothèque de Radio France, Par les temps qui courent. C'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riandès. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast partout et quand vous voulez. 22h, tout bientôt sur France Culture. Très belle soirée à vous.